Cette semaine, Delphine Jaffé rencontre Éric Deluca. Ce soir, le corps à l'œuvre.
Éric Deluca, bonsoir. Nous avons évoqué hier votre parcours d'ouvrier chez Fiat et la lutte de 1980. Et en 1980, vous fuyez les lois spéciales de votre pays et vous partez en France. Alors pourquoi est-ce que vous partez en France à ce moment-là ?
Ah, c'était une précaution. C'était un moment où des milliers de camarades venaient d'être arrêtés par des dénonciations et ils purgeaient des années avant le procès et après ils étaient relâchés après des années de rien du tout. Et donc c'était une précaution. Je suis venu en France parce que j'avais déjà quelques connaissances ici. Alors je suis venu ici pour chercher du travail. Je n'étais pas en fuite, c'était une question de précaution. Et j'ai trouvé du travail ici, et donc je suis resté pour environ un an ici.
Vous l'avez vécu comme un second exil, après vous êtes extirpé de Naples?
Non, ce n'était pas un exil, c'était un déplacement. Un déplacement à l'étranger. Et c'était bien, à l'époque, de commencer à mettre dans la poche de l'argent qui était l'argent étranger. Ça faisait un bon son dans ma poche, le mot argent. Les francs, qui d'ailleurs me semblaient plus importants que les lires italiennes.
À cette époque-là, qu'est-ce que vous exercez comme métier? Vous travaillez de nuit aussi?
Non, je faisais l'ouvrier, le maçon. J'étais dans la maçonnerie. Non, quand le patron a cessé de nous payer les salaires, on a occupé tous les ouvriers. Nous avons 40 ouvriers qui ont occupé les bureaux. C'était la fin de l'automne. Après l'occupation, ils ont coupé l'électricité et le chauffage. Et donc, nous sommes restés là-dedans en attendant que quelque chose arrive. Et moi, je m'occupais avec des autres 5 ouvriers de garder le bureau pendant la nuit. Donc j'avais la journée libre pour aller marcher dans Paris. Et le soir, je venais de me coucher par terre dans les bureaux du patron. Et à l'époque, nous pouvons profiter d'un repas au jour offert par la syndicat, la CGT. Un repas au jour, il y avait un lieu où on prendrait ce repas. Pas le dimanche et pas le soir. Mais pour moi, c'était suffisant.
Et pendant combien de temps vous avez lutté comme ça pour...
Je pense que ça avait deux mois entre décembre et janvier. Et après, on a été remboursé de quelque façon et je suis parti pour l'Italie.
C'est ça, vous êtes à ce moment-là, vous repartez en Italie au moment du tremblement de terre
Naples. Non. Le tremblement de terre, c'était avant. Après la Fiat, je suis allé à Naples. Et après ce travail, je suis parti en France. Et après la France, je suis venu en Italie, je me suis entraîné pour un travail de bénévole en Afrique. Je suis parti pour la Tanzanie pour un programme de
approvisionnement
d'eau.
D'eau, oui, pour construire des éoliennes, c'est ça, en Tanzanie.
Des éoliennes à monter sur des puits.
Et Éric Deluca, pourquoi à ce moment-là vous dirigez vers le bénévolat et vers l'Afrique? Est-ce que c'est un choix ou c'est une occasion qui se présente à ce moment-là?
Encore, je voulais pas rester en Italie. C'était pas encore j'étais pas encore sûr de rester en Italie. Donc je cherchais j'avais comme une espèce de honte de après cette lutte. Pour recevoir le salaire d'où? J'avais une espèce de honte, je voulais chercher un travail gratuit. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'argent. C'était tout simplement un service. Et comme ça, je me suis trouvé dans une organisation qui envoyait des bénévoles en Afrique. C'était la Tanzanie, et donc dès que je parlais un peu d'anglais, mais c'était complètement insuffisant l'anglais. Il fallait parler le Kiswahili, c'était le langage du lieu. Et alors j'ai appris le Kiswahili, j'ai étudié le Kiswahili, et c'était une langue sympa. Je l'ai appris volontiers, volontiers. Après, je l'ai oublié parce que il me reste que des courtes phrases, des mots. Et là, mais je l'ai oublié, je ne l'ai plus pratiqué. Mais c'était sympa, le Kiswahili, ça me plaisait, de parler Kiswahili ici.
Vous avez toujours appris des langues, vous avez un amour pour l'apprentissage des langues, pour les mots des autres langues.
Mais d'abord, à l'école, au lycée, j'ai appris le latin et le grec. Ce n'était pas des langues à parler, c'était des langues pour le lire. Et les langues que j'ai apprises sont des langues que j'ai apprises pour les lire. Sauf le Kiswahili, je l'ai appris pour le parler, pas pour le lire. Le Kiswahili faisait exception. Il ne servait qu'à faire communication avec les gens du lieu.
Et est-ce que, pour vous, une langue, c'est un pan d'identité ?
Non, non, une langue, c'est la possibilité de faire une visite directement chez le lieu de l'écrivain, du poète. C'est comme un billet de visite pour entrer dans l'intimité de la langue d'un poète ou d'un écrivain. Donc c'est comme une intrusion sans être invité.
Eri de Luca, vous avez aussi appris le yiddish. Et vous avez un rapport particulier avec le yiddish parmi toutes les langues que vous connaissez.
J'ai un rapport courrier avec le yiddish qui me fait... Vous savez, le yiddish, c'est une langue de source allemande. Donc, pour moi, je ne parle pas l'allemand et je ne lis pas en allemand. Je comprends quelque peu un peu. Mais pour moi, l'allemand, c'est une espèce de dialecte de yiddish. C'est exactement le contraire de ce qui est aperçu normalement. Mais dès que j'ai beaucoup plus lu en yiddish qu'en allemand, donc il y a eu cet effet contraire. Et l'yiddish, je l'ai appris parce que le moment où je suis revenu de Varsovie, c'était l'avril de 93, il y avait 50 ans, on célébrait les 50 ans de l'insurrection du ghetto de Varsovie, de l'avril de 43. Alors je suis allé là. Un des héros de mon adolescence était Marek Edelman, un des combattants de la guerre, de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Et donc je suis allé là pour être là. J'ai même pu voir Marek Edelman, qui ne participait jamais aux célébrations de cet anniversaire, mais je l'ai trouvé debout sur une chaise, dans une petite place où il parlait polonais à des gens qui l'écoutaient très attentivement. Et je l'ai reconnu par une photo que j'avais de lui. Quand je suis revenu de là, j'ai décidé d'apprendre cette langue. La langue qui avait été annulée, suffoquée par la destruction. Au nazisme, n'est pas réussi la destruction d'un peuple, mais d'une langue, oui. Cette langue a été annulée, était parlée en Europe de plus de 11 millions de personnes, et après la guerre, personne plus la parlait en Europe. Même les rescapés ne parlaient pas, même ceux qui étaient allés s'installer en Israël, même ceux-là qui n'avaient plus envie de parler cette langue, qui pour eux était la langue de l'humiliation ou de la défaite. Et donc cette langue, je l'ai voulu réanimer pour moi-même, dans ma bouche, dans mes lectures. J'ai appris très aisément à travers une grammaire anglaise de l'université d'Oxford. C'était une grammaire très, très pratique, très facile. Et donc j'ai acheté un vocabulaire et j'ai commencé à lire en yiddish. Mon premier livre était celui de Singer, de famille Mouchkat. Et après, j'ai mis un an pour lire de famille Mouchkat. Je le faisais tous les jours et j'avançais et je progressais lentement. Mais maintenant, je lis assez régulièrement en yiddish.
De quelle manière, Éric De Luca, cet apprentissage de plusieurs langues, ce contact avec d'autres mondes et d'autres intimités, a influencé votre propre pratique de l'écriture? Est-ce que ça a une influence ou pas?
J'avoue à moi-même que le moi-même lecteur n'a rien à voir avec le moi-même écrivain. Ils ne se connaissent pas. Je sais une histoire, j'ai lu une histoire qui racontait un écrivain suisse qui s'appelle Robert Walser. Il avait lu Dickens et après la lecture de Dickens, il s'était désespéré de sa possibilité d'écrire après la lecture de Dickens. Et pourquoi? Je me suis demandé pourquoi. La réponse est qu'il avait lu Dickens comme un collègue de l'auteur et pas comme un lecteur. Il s'était gâché sa lecture pour se mettre à côté ou même à l'auteur de l'écrivain. Et donc, comme ça, il était désespéré. C'est juste se désespérer. Mais moi, je suis beaucoup plus lecteur qu'écrivain. J'ai lu un camion de livres et pas, j'ai pas écrit un camion de livres. Et donc, moi, que je suis plus lecteur qu'écrivain, je sais que quand je lis, je suis exactement, exclusivement lecteur. Quelqu'un qui a besoin d'établir une relation au pair avec la lecture. Ce livre doit entrer dans mon intimité, doit pénétrer dans mes affaires intimes, physiques même. Donc, comme lecteur, je suis un lecteur plutôt exigeant. J'exige que le livre me parle de moi, en cachette, hein, qui me révèle des choses de moi-même que je ne connais pas, et donc que je peux reconnaître que c'est la partie plus émouvante d'une relation entre lecteur et écrivain, le fait de, pas de connaître des choses nouvelles, mais de reconnaître quelque chose de soi-même qui est caché là-dedans, qui n'était pas encore sorti à l'évidence, à la surface. Et l'écriture est cette possibilité de faire affleurer sa propre expérience. Et donc, je suis un peu exigeant. Ma question est, qui est le porteur? Le livre ou le lecteur est le porteur? Qui emporte qui? Alors, imaginez qu'à la fin d'une journée de travail, sur un chantier ou dans l'usine, je sors. Je reste debout dans le bus ou le tram ou le train qui m'amène en arrière. Je suis debout et j'ai un livre qui devant mes yeux. Je le lis et ce livre est capable de me faire oublier mon poids, ma journée, le poids qui est passé à travers mon dos et mon corps. Il arrive même à me faire oublier l'arrêt où je dois descendre. Donc, c'est lui qui m'a amené. Si au contraire le livre ose me présenter ses grammes supplémentaires au poids de la journée, il me tombe de la main. Donc, le livre, c'est ça. Je suis un lecteur qui prétend, exclusivement lecteur quand je lis, et qui prétend d'être soulevé par le livre, effacé du lieu où je me trouve. Le livre a cette capacité d'annuler même les murs des prisons. Il y a seuls des moments où un prisonnier n'est pas en prison, quand il dort et quand il lit.
À ce propos, Éric De Luca, du livre qui annule, vous parlez dans plusieurs de vos textes de Céline et de cette expérience de lecture que vous avez eue de Voyage au bout de la nuit. Et vous êtes interdit la relecture de ce texte, comme si la relecture, justement, allait faire revivre ce moment où vous l'avez lu. Il faudrait scinder, en fait, le moment d'une lecture pour que ça reste le moment d'une lecture.
Oui, mais on ne descend pas des fois dans le même mot, hein, dans le même fleuve. Même si on se baigne dans le même fleuve à distance de quelques jours, ce n'est pas le même fleuve. Donc c'est comme ça pour le livre. Avec Céline, ça regardait le voyage au bout de la nuit, regardait le fait que je l'avais pris par un livre d'occasion sur un trottoir, mais pour la seule raison de son titre. J'étais à Naples après le tremblement de terre, et je faisais le travail d'ouvrier, mais c'était renfermé derrière moi l'appartenance à une communauté après la sortie de la grande usine. La défaite de ces années-là. Et donc, j'étais dans l'acidité et l'amertume compatible avec celle du livre. Alors, il y avait une correspondance entre ce texte et ma lecture. Et je l'ai employé comme ça, en le lisant, je le détruisais aussi. Je perdais les pages, on me restait que les pages du reste de la. Les pages finales. Et les pages finales, quand je terminais de le lire, je les déposais sur un bidon de déchets. Et c'était aussi le moment où je quittais Naples à nouveau. Je repartais après ce travail, après cette année de travail après sur le tremblement de terre. Donc c'était un livre qu'on ne pouvait pas relire. Je dois dire que j'ai relu rarement. Et un des rares livres que j'ai relu est Le Quichotte. Je l'avais lu à 16 ans, 17 ans, en me fâchant beaucoup avec Cervantes, parce qu'il s'amusait à rendre ridicule ce personnage héroïque et isolé et visionnaire. Et après, je l'ai relu à 50 ans, donc à l'âge exact de Quichotte. Et là, j'ai trouvé le deuxième temps de l'histoire de Quichotte, et qui est le moment où il, continuellement battu, se lève régulièrement pour se battre à nouveau. Ce deuxième temps, qui était le temps contraire de la chute, de la défaite, c'était le temps de la résistance et de l'obstination à se battre à nouveau. Alors, dans cette deuxième occasion, j'ai pu reconnaître l'adjectif invincible que Nassim Hikmet, dans un poème dédié à Quichotte, offre à ce personnage. Il dit « Tu es le chevalier invincible des assoiffés ». Il était comme ça, invincible, parce que quelqu'un comme lui ne pouvait pas être vaincu une fois pour toutes. Il se le soulevait régulièrement des coups et des défaites, et des rires aussi, et de l'insolence des défaites, pour recommencer à nouveau. Donc ça, c'était cette relecture m'a rendu Quichotte un personnage qui pouvait être reconnu dans les temps suivants, dans les temps courants. Avec Jean-Marie à Testa, on faisait des soirées avec des chansons aussi, et des soirées, des histoires, en racontant les Quichottes d'aujourd'hui, les Quichottes qui étaient d'aujourd'hui, même les Quichottes avant de Quichotte. Mm. Par exemple, Moïse était un Quichotin avant l'être, parce qu'il était forcé d'être un prophète, tout était un bégayeur. Donc il était dans la condition la plus difficile de l'entreprise pour un prophète. Et quand même, il avait surmonté cet obstacle physique, exactement comme le futur Quichotte.
Éric De Luca, quand vous partez en Afrique, donc c'est un espace que vous ne connaissez pas, excepté par la langue que vous apprenez juste avant, vous décidez de ne pas prendre de livre, ou pourquoi à ce moment-là
Dans mon bagage, il n'y a jamais de livres. Les livres, je les trouve. Je les rencontre là où j'arrive. Donc je ne pars pas avec les livres. Je ne comprends pas les voyageurs d'aujourd'hui, les migrants, qui osent soustraire l'indispensable du petit bagage qu'ils peuvent amener avec eux pour mettre un livre. Par exemple, le Coran. Je les admire, mais je ne les comprends pas. Les livres, on les amène avec soi, dans la tête, ou on les trouve là où on arrive. Ma mère, qui venait de mourir, disait qu'elle s'imaginait l'après de la mort comme une grande bibliothèque où elle pouvait lire tout le temps. Donc il n'y avait pas de livres de lire dans son cercueil. Elle les aurait trouvés de l'autre côté. Elle avait cette foi que je n'ai pas. Je crois que si on lit maintenant, on lira pas après. Si on s'embrasse maintenant, on ne s'embrassera pas après. Donc je suis pas croyant et donc je reste complètement terrestre. Mais là, vous m'avez demandé des livres.
Quand vous partez en Afrique.
En Afrique, j'ai mené avec moi une grammaire d'ancien hébreu. Je voulais apprendre l'ancien hébreu.
C'est à ce moment-là que vous l'avez appris?
J'ai commencé à l'apprendre, j'ai commencé à mettre mes yeux sur ces lettres anciennes en les reconnaissant, en les apprenant à lire ces premières lignes. Le premier psaume que j'ai appris par cœur, c'était le psaume 137, qui parlait de l'exil du peuple hébreu en Babylone.
Et c'est par hasard, ce psaume-là?
Je suis tombé sur ce psaume-là et ce chant de l'exil me plaisait, donc j'ai voulu l'apprendre. Parler de Jérusalem, de la nostalgie pour Jérusalem.
Eri De Luca, est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience africaine qui a été quand même assez difficile? Vous avez été touché par la fièvre là-bas. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos relations avec les autres bénévoles? Comment tout ça se déroulait?
Bénévoles, c'est facile. On était en deux.
Nous étions deux. Ah oui.
Donc c'était vite fait. Et nous étions capables de monter ces éoliennes sur des puits et on était nourris avec la nourriture du village, que c'était de la farine de manioc et quelques légumes. Et le soir, on restait à discuter avec les gens du village, les choses à faire, les histoires. Ils étaient intéressés à Naples. Je racontais de Naples, si. Naples, le volcan, le tremblement de terre, des choses qu'ils ne connaissaient pas. Donc c'était comme du roman pour eux. Et les serpents. Les serpents. Il y avait toujours des serpents dans le village.
Ah oui.
Il y avait ce cri, gnocca, gnocca. Ça veut dire le serpent. On s'arrêtait tout, on allait chercher le serpent, le tuer. Et le premier jour que je suis arrivé, la première heure que je suis arrivé là dans le village, ils m'ont laissé attendre quelqu'un qui me venait main. Et j'étais assis sur un trottoir, sur une marche, et un serpent, un mamba vert, m'était passé à côté des pieds, il s'était mis sous une pierre. J'étais un peu troublé par le fait que je voulais pas faire la figure de l'étranger qui venait dénoncer un serpent. Ah, un serpent. Donc j'étais un peu troublé. Je savais si je dire ou dire pas que c'était pas produit un serpent. Donc j'ai dit, mais on a gnocca, j'ai vu un serpent. Ouh! Ils se sont tout de suite alertés. J'ai dit, mais là, sur la pierre. Ils ont encerclé la pierre avec des bâtons. Et ça m'est resté un peu le souci d'avoir dénoncé un serpent. Ça m'est resté ce souci, quelque part. Parce que je me le suis retrouvé pendant des moments de ma vie où j'étais dans des lits d'hôpital. Donc je me suis souvenu de ce serpent que j'ai dénoncé. Non, mais la vie, c'était très simple. Très simple. Je me souviens que certains soirs, on écoutait le rugis d'un lion de l'autre côté de la qui marquait le terroir, évidemment, son territoire. Et il y avait... C'est ça, les animaux. Les serpents, le rugis d'un lion et les mosquitos.
Oui.
Les mosquitos qui m'ont introduit la malaire dans le corps.
La malaria.
Donc après, oui. La malaria. Et donc après beaucoup de... Après mon service, j'étais tombé malade. Et là, il n'y avait pas trop de quoi soigner. Donc, j'étais dans un lit à purger mes fièvres. Et quand je suis arrivé à être complètement desséché, ils ont décidé que s'il fallait mieux, si j'allais mourir ailleurs. Alors, ils m'ont renvoyé.
D'accord, donc à ce moment-là, vous rentrez en Italie complètement.
Complètement séché. C'était comme un figue sec. Non? Il m'a manqué un peu de sucre, mais c'était comme un figue sec.
Et donc, vous n'êtes plus retourné en Afrique après?
Je suis revenu en Afrique il y a quelques années avec une organisation de bénévoles médecins qui s'appelle Emergency. Il avait bâti un hôpital en Soudan, près de Khartoum, sur le rivage du Nil Azur. Un hôpital d'excellence de cardiochirurgie. Et là, ils m'ont invité à être là et à voir qu'est-ce qu'ils faisaient, donc pour pouvoir raconter cette histoire. Et donc, je suis revenu en Afrique. Je me suis retrouvé dans ce même chalet. J'ai ressenti un peu des fièvres du passé. Je me suis souvenu des fièvres du passé. Mais c'était comme une espèce de vaccin retardé. C'était un effet mineur de l'expérience de 20 ans avant.
Merci Eric De Luca et à demain soir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Delphine Jaffet avec Eric De Luca. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, réalisation Christine Digère, prise de son Arthur Gerbeau, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.